Martine Bourrivage, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, coordonnatrice jeunesse 0-25 ans, première et deuxième ligne, je vais le dire au complet. Direction DITSA-DP du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest de l'île de Montréal, fameux CIUS. Et en fait, vous êtes au Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal. C'est une installation de ce CIUS-là, Martine. On l'a dit au complet, on le redira peut-être pas au complet. Merci d'être avec nous, Martine Bourrivage. Vous êtes ici pour tenter de démystifier ce qu'est un enfant autiste non verbal. On le sait, ou du moins on en entend de plus en plus parler, les personnes autistes ont une façon différente peut-être de communiquer que les personnes neurotypiques. Peut-être juste pour mettre la table au départ, les grandes lignes, qu'est-ce qui distingue leur façon de communiquer que les neurotypiques?
C'est certain que, déjà, on peut le voir à la base, probablement que Mme Leduc l'a vu à la base aussi. C'est toute cette notion-là, quand ils sont bébés, même avec le langage préverbal, cette notion-là de réciprocité, de contact visuel, de vouloir pointer quelque chose. Souvent, un enfant même qui est non-verbal va voir un oiseau dans le ciel, va pointer. Tout ce qui s'appelle l'attention conjointe, c'est souvent un des premiers signes que les parents ne voient pas nécessairement. Et ils vont justement se poser des questions à savoir qu'est-ce qui se passe avec mon enfant, mais va être plus centré sur ce qui est verbal. OK?
Ouais.
Donc, à partir de ce moment-là, c'est souvent, bien là, mon enfant ne parle pas, alors que probablement qu'il avait présenté ces signes-là avant. Donc, au niveau de la communication, c'est très différent. Justement, ce qui fait en sorte pourquoi avoir un diagnostic d'autisme, c'est vraiment au niveau des interactions sociales et de la communication sociale.
Mm-hmm.
OK? Donc, souvent, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt à parler parce que le langage, pour eux, c'est un code. C'est très abstrait, le langage. Donc, c'est très, très difficile.
C'est très abstrait pour eux, donc, ce code-là.
Oui. Donc, ne connaissent pas nécessairement le code. C'est sûr, quand on parle d'autisme non-verbal, il n'y a pas de définition claire sur qu'est-ce que c'est l'autisme non-verbal.
Oui, voilà.
Et c'est ce qui est dommage. Ce qu'on dit dans la littérature, c'est qu'ils vont le considérer en général entre quelqu'un qui est capable de produire entre 5 et 30 mots, mais ce n'est pas consistant dans la littérature. Donc, ils ne peuvent pas savoir, ils ne peuvent pas faire de recherche, savoir c'est quoi les meilleurs traitements parce qu'ils ne peuvent pas comparer les bonnes choses en même temps.
Mm-hmm.
Donc, comme Mme Leduc aussi, c'est qu'il y a tellement dans le spectre de l'autisme, c'est tellement large que c'est difficile à voir qu'est-ce qui va fonctionner pour un, qu'est-ce qui ne fonctionnera pas pour l'autre. Donc, de plus en plus, on parle de, au lieu de se concentrer sur la production du langage, comment se centrer sur la motivation à parler, à communiquer.
Mm-hmm.
Okay? Et pas parce qu'un autiste ne parle pas qu'il ne communique pas non plus. On parle de communication verbale, mais il y a d'autres moyens de communication.
Avec toutes les avancées scientifiques des dernières années sur l'autisme, sur le trouble du spectre de l'autisme, est-ce qu'on pourrait tendre éventuellement à clarifier plus précisément ce qu'est un enfant autiste non verbal? Est-ce que vous pensez qu'un jour, il y aura ces grandes lignes directrices pour le nommer?
De plus en plus, oui, parce que dans la dernière littérature, ce qu'on voit aussi, ce qui est intéressant, c'est que dernièrement, avant la décennie, avant l'avènement des nouvelles thérapies et de l'information qu'il y a sur Internet, on parlait de 50 % des enfants avec un diagnostic d'autisme étaient considérés comme non-verbaux, maintenant que c'est 25 % Donc, on voit qu'il y a des avancées au niveau de la thérapie. On voit qu'il y a des... Il y a beaucoup de recherches qui se font à ce niveau-là. Puis comme je disais plus tôt, c'est se centrer moins sur la production du langage, mais vraiment sur la motivation à parler. Comme on parlait d'établir des opportunités dans en vos parcs, par exemple. Donc, comment on peut faire pour que l'enfant spontanément arrive à parler et à demander quelque chose. Donc, comment on peut développer sa motivation à vouloir communiquer? C'est plutôt ça. Et c'est pas facile parce qu'il faut saisir les opportunités. Donc, l'enfant va être renforcé s'il dit un mot et on lui donne. Donc, il va être porté à reproduire ce comportement-là, ce mot-là, parce qu'il a été renforcé en disant le mot, là.
Un enfant qui émet des sons, je pense que le terme, c'est écholalie. C'est le cas de Simon, d'ailleurs, qui fait quelques sons.
Pardon. En fait, Simon ne fait pas du tout d'écholalie. Simon est un non-verbal non-verbal.
Un vrai de vrai.
En fait, il va faire des sons. On sait qu'il est capable d'émettre des sons parce que je pense que ce serait intéressant de parler à des psychiatres là-dessus. Je crois que l'être humain est fait pour faire des sons aussi, à moins d'être muet, évidemment. Mais le mien a comme besoin de continuellement faire des pouis, pouis, puis on l'appelle pouis, pouis maintenant, d'ailleurs, parce que qu'il fait des sons beaucoup, beaucoup. On dirait que c'est un besoin là, de faire de sons. C'est des sons qui peut-être veut dire des choses pour lui.
Ouais.
Et de temps en temps, on se dit, oh, il vient-tu de dire ZA pour pizza? Parce qu'il va faire dire, ah, peut-être, tu sais, il va faire des sons, mais whoop, là, il accroche des fois des fins de mots. Les premières fois, il y a à peu près 3-4 ans, on n'y croyait pas. On ne pensait pas que c'était une fin de mots ciblée. On pensait que c'était que de l'écolalie, puis il répétait sans nécessairement avoir une fonction. Maintenant qu'on sait qu'il comprend très bien notre langage, le langage réceptif chez eux est très, très développé, ce qui fait qu'on est rendu qu'on parle de façon courante. Il est dans sa chambre, pardon, puis il va descendre. Si on a dit voiture, on s'en va en voiture, il va descendre, il a compris, c'est quand même particulier.
Donc, l'écolalie fait partie du développement du langage. Comment on peut déterminer ça dans le développement du langage de l'enfant?
C'est certain
ça
pour au niveau du développement du langage portophoniste, par contre, là, mais au niveau du langage des enfants neurotypiques, l'écolalie habituellement est beaucoup plus tôt, alors que chez les enfants autistes, c'est beaucoup plus tard, mm-hmm. vers 7-8 ans. C'est certain que l'écolalie, la définition de l'écolalie comme telle, c'est de répéter des phrases, mais qui ne veulent, dans un contexte qui est différent ou qui n'ont pas nécessairement de sens pour l'enfant. Comme par exemple, souvent, quand on va utiliser, on va travailler en thérapie comportementale, on va lui demander « Quel est ton nom? » Il va répondre « Quel est ton nom? » OK?
Ah oui,
il va arriver, okay. Il va dire « Dis salut à Martine. » Dis salut à Martine. Tu sais, donc, il va répéter. Il est capable de produire le son, mais pour lui, la phrase aussi, ça ne fait pas de sens et c'est pas adapté au contexte.
OK. C'est du point de vue de la compréhension à ce mm-hmm. moment-là.
Moi, dans le cas de Rémi, mon plus jeune, a fait beaucoup d'écolalie. Mais lui, contrairement à ceci, c'est que lui, il va l'utiliser. Comme son langage, c'était difficile d'accès pour lui. Quand il arrivait une question, une phrase, c'était une phrase qu'il avait entendue dans un film qu'il pouvait aller rechercher pour répondre. Elle était bien placée, mais c'est pas des phrases construites par mon fils. Et encore aujourd'hui, il est meilleur dans la construction de phrases en anglais. Mm-hmm. qu'en français. Mm-hmm. Donc, si on lui disait « Veux-tu de la pizza? », il disait « Pizza, les gars, comme dans Toy Story. »
Ah oui!
T'sais, il répétait mm-hmm.
la... Sa référence
oui,
était là pour
c'est
lui.
Ça. Mais pour lui, c'était très utile, sans quoi il aurait été sans mots. Donc, ouais. C'est mm-hmm. quand même important, l'écolalie, et c'est précurseur du langage.
Ouais. Le temps file à vive allure. J'ai envie de vous demander, Martine, parce que cette émission, elle est en place pour ça, aider les parents, tenter de leur donner des ressources, de les faire réfléchir, des amener ailleurs. Pour ces parents qui soit découvrent que leur enfant autiste vit des difficultés de communication ou encore, un petit peu comme Joanne, on est confronté à un enfant non-verbal, on aura envie d'avoir des pistes vers quoi on peut se tourner.
Mm-hmm. Mais c'est certain que typiquement, c'est comme on dit, c'est dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. C'est essayer de trouver des motivateurs ou des occasions qui vont faire en sorte que l'enfant va pouvoir donner un sens au langage. C'est saisir les opportunités comme le bain, aller au parc. Donc, de vraiment favoriser ce que l'enfant soit capable d'utiliser une communication spontanée et que pour qui le langage va donner un sens et pour qui le fait de parler va être renforcé. Parce que c'est souvent un langage social, donc c'est un acte social, le langage. Donc, il faut que l'enfant commence à demander des choses, nommer ses besoins. Souvent, ce qu'on a vu avec mon expérience au niveau de la thérapie comportementale intensive, je me souviens, c'est que l'enfant pouvait nommer ses couleurs, pouvait nommer des objets, pouvait nommer, mais il parlait pas de façon spontanée. C'est qu'à un moment donné, j'avais intégré un enfant à la maternelle. Le professeur m'avait dit, bien, cet enfant-là, il parle pas. Je dis, mais oui, mais il fait des phrases complètes, mais il était pas renforcé, OK? Donc, il n'avait pas besoin d'utiliser le langage. Donc, s'il n'en a pas besoin, souvent, il ne va pas l'utiliser, on ne va pas le renforcer. Et il y a quand même de plus en plus dans les recherches aussi des éléments neurologiques qui vont faire en sorte qu'avec l'âge, ils peuvent perdre aussi certains acquis du langage. Ouais. Donc, il y a des applications pour les parents aussi. Il y a le site sur la Fédération québécoise de l'autisme où il y a des applications pour favoriser justement la communication. Les iPads, c'est très, très renforceur comme aussi moyen de motivation. Mmh. Donc, il y a plein de ressources qui peuvent faciliter l'apparition du langage ou au moins une façon de communiquer.
Là. Je pense qu'on aurait eu besoin de 2 heures pour en parler. L'émission étant faite, non pas de cette façon, on doit vous laisser partir, Martine Beaurivage, mais ça a donné quand même, je pense, on a pu installer quand même quelques enjeux, du moins installer cette discussion-là. Et je pense qu'on aura du temps pour y revenir un autre moment donné parce que c'est essentiel, évidemment. Martine Beaurivage, vous êtes psychologue, coordonnatrice jeunesse du côté du Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal. C'est une installation du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Bonjour. Merci.